18h. C'est l'heure du journal, présenté par Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. L'Organisation de la coopération islamique appelle le monde à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien. Elle reproche au président américain Donald Trump de nourrir l'extrémisme et le terrorisme. Les pays du G5 Sahel veulent renforcer leurs efforts pour lutter contre les groupes djihadistes dans la région sahélienne. Cela passe par plus de moyens humains et financiers. La décision sur Notre-Dame-des-Landes sera politique, mais dans le rapport des médiateurs, une option semble l'emporter, le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. L'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, en difficulté, il aurait transmis à son ami Thierry Soler des informations sur une enquête le concernant. La Cour de justice de la République est saisie. Nous proclamons Jérusalem-Est capitale de l'État de Palestine. Par ce communiqué, l'Organisation de la coopération islamique, réunie en sommet à Istanbul, répond à la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État Israël. Une décision qualifiée par les leaders musulmans de sabotage délibéré des efforts visant à parvenir à la paix. Le ton est vraiment très offensif, Nabila Hamel.
Oui, alors les mots sont effectivement plus fermes que ceux utilisés par la Ligue arabe le week-end dernier. À Istanbul, aujourd'hui, la décision américaine a été condamnée par l'OCI, qui la juge irresponsable, illégale et susceptible de nourrir l'extrémisme et le terrorisme. L'Organisation de la conférence islamique considère que par cette initiative, Washington signe son retrait de son rôle de médiateur dans la quête d'un règlement de paix. Et le communiqué final proclame, vous le disiez, Jérusalem-Est, capitale de l'État de Palestine, comme il appelle les autres pays à reconnaître l'État de Palestine avec Jérusalem-Est comme capitale occupée. Fermeté oratoire donc des participants, que ce soit le Turc Erdogan, l'Iranien Rouhani, le roi de Jordanie Abdallah II ou le principal concerné, le président palestinien Mahmoud Abbas. Mais au-delà de discours offensifs, aucune décision concrète n'a été prise. L'organisation panislamique est assez divisée entre les priorités des uns et les alliances conjoncturelles des autres. L'Arabie Saoudite, autrefois membre influent de l'OCI, s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères face à la vingtaine de chefs d'État présents à Istanbul. Riyad a opéré depuis mai un solide rapprochement avec l'administration Trump et privilégie une diplomatie centrée plutôt sur l'endiguement de l'Iran, ce qui est aussi une des priorités d'Israël. Le roi Salman n'a toutefois affirmé aujourd'hui en Arabie, devant l'Assemblée consultative saoudienne, que les Palestiniens avaient le droit de faire de Jérusalem-Est la capitale de l'État auquel ils aspirent, que la décision américaine était profondément partiale et qu'elle allait à l'encontre de droits garantis par des décisions internationales. Un discours qui paraît surtout destiné à l'opinion saoudienne.
Nabila Hamel, accélérer la mise en place de la force du G5 Sahel, c'était l'objectif de la réunion internationale organisée aujourd'hui à la Selle Saint-Cloud, près de Paris. Composée de soldats de 5 pays de la région, cette force doit prendre à terme le relais de la force française Barkhane, mais pour remporter des victoires décisives, elle a besoin d'un soutien renforcé. Bonsoir Valérie Crova.
Bonsoir.
Alors est-ce que cette réunion a tenu ses promesses ?
Il va falloir attendre quelques semaines pour voir les résultats sur le terrain. Cette réunion a débouché sur une déclaration et une annonce. La déclaration, c'est celle d'Emmanuel Macron devant les dirigeants maliens, nigériens, burkinabés, tchadiens et mauritaniens. Il faut gagner la guerre contre le terrorisme. Une guerre qui bat son plein, il dit. Il y a des attaques chaque jour et des États qui sont aujourd'hui menacés, a poursuivi le président français en référence notamment au Mali. D'où l'importance de sécuriser les zones où des groupes extrémistes mènent des actions surprises. Ils ne sont que quelques centaines, mais ont une réelle capacité de nuisance, comme l'a montré en octobre dernier l'attaque qui a coûté la vie à 4 soldats des forces spéciales américaines dans le sud-ouest du Niger, près de la frontière malienne. L'annonce, ce sont les 100 millions de dollars débloqués par l'Arabie Saoudite pour la force G5 Sahel, une contribution accueillie favorablement car son financement n'est pas encore bouclé, il manque des ressources pour qu'elle puisse être totalement opérationnelle. Les besoins ont été évalués à 250 millions d'euros pour sa mise en place. Le chef de l'État a par ailleurs évoqué un renforcement quantitatif, en d'autres termes une augmentation des effectifs engagés. La force commune devrait réunir 5000 hommes au printemps 2018, des soldats qui seront issus des 5 pays impliqués. Cette force international aura la possibilité de s'affranchir des frontières lors des opérations anti-djihadistes qui seront planifiées en priorité au centre de la zone sahélienne entre le Mali, le Burkina et le Niger.
Valérie Crova. La deuxième phase des négociations sur le Brexit devrait rapidement s'ouvrir. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne doivent donner leur feu vert demain à Bruxelles. Et le Parlement européen a salué aujourd'hui l'accord entre l'Union et le Royaume-Uni. Dans leur résolution, les eurodéputés précisent qu'ils resteront vigilants sur le respect des promesses. Écoutez Guy Verhofstadt, président du groupe libéral et référent Brexit du Parlement européen.
On ne peut pas progresser dans la deuxième phase des négociations si les engagements qui ont été pris dans le rapport ne sont pas traduits dans des textes concrets et dans l'accord de retrait de la Grande-Bretagne. Et on a bien indiqué dans la résolution qu'on ne va jamais accepter le contrat final, donc l'accord final, s'il n'y a pas une procédure de telle nature.
Oui, parce que le Parlement européen aura le dernier mot.
Ben, à la fin, on a le dernier mot. C'est prévu pour octobre 2018, donc c'est dans 10 mois. Et donc, il est clair qu'on ne va jamais approuver si on ne tient pas compte de nos souhaits. Et pour le moment, notre exigence la plus importante, c'est qu'il y a une procédure qui est prévue pour les citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni, qui est simple, et qui met en fait pas tous les problèmes sur le dos de nos citoyens. Nous voulons un système avec lequel en fait les citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni peuvent continuer à jouir de leurs droits.
Guy Verhofstadt au micro d'Anya Vogel. Vers un report du procès de Salah Abdeslam en Belgique, le seul survivant des commandos des attentats parisiens de novembre 2015 devait comparaître à partir de la semaine prochaine à Bruxelles pour le procès de la fusillade du 15 mars 2016. Mais son avocat a demandé le report du procès, Antoine Marek.
Et la première information, c'est que Salah Abdeslam a un avocat. Depuis l'automne 2016, le Français refusait toute aide judiciaire, restant mutique. Maître Sven Marie est d'ailleurs son ancien avocat. Il avait jeté l'éponge donc à l'automne 2016, se plaignant de l'attitude de son client. Celui-ci donc avait toujours refusé de répondre aux enquêteurs depuis plus de 20 mois. Et voilà Sven Marie de retour pour défendre Salah Abdeslam. C'est d'ailleurs lui qui a demandé le report du procès pour pouvoir consulter le dossier de son client et préparer sa défense. Mais ce sont les trois juges qui vont prendre la décision, sans doute lundi matin, même si le report ne fait désormais plus guère de doute. Il faudra alors que les parties se mettent d'accord sur une date, probablement vers fin janvier, voire début février. Reste une question, Salah Abdeslam sera-t-il présent lundi matin dans le box des accusés? Probablement non, son transfert et sa remise aux autorités judiciaires devraient être annulés.
Antoine Marette. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ira-t-il à son terme? Le chef de l'État tranchera au mois de janvier, mais les médiateurs chargés de se pencher sur ce dossier sensible ont rendu leur rapport à Édouard Philippe à la mi-journée. Jusqu'au bout, les défenseurs du projet ont maintenu la pression. Ils ont manifesté devant l'Assemblée nationale, parmi eux Jean-François, un retraité.
Il n'est pas question de faire un autre aéroport. Il s'agit de prendre celui qui existe actuellement et de le transférer à Notre-Dame-des-Landes, où là, on est, comme le nom l'indique, dans une lande, donc on n'embête personne. Alors que sur l'aéroport de Nantes Atlantique, actuellement, vu le trafic d'avions qu'il y a, ça devient infernal. Les avions qui passent au-dessus de la ville, les avions qui passent au-dessus des écoles, il y a des milliers d'enfants qui sont perturbés par les avions qui passent au-dessus de leurs écoles. Ça suffit, il y a assez longtemps que ça dure. Vous avez remarqué que j'ai un certain âge, et si je suis là, c'est pas pour défendre un aéroport pour moi, c'est pour défendre un aéroport pour mes petits-enfants.
La justice a dit
oui !
Le président Macron doit dire
oui !
Des propos recueillis par Julia Siriex. Un transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou son maintien avec un réaménagement à Nantes Atlantique sont deux options raisonnablement envisageables, estime le rapport des médiateurs. Mais, n'en déplaise à Jean-François, l'hypothèse du réaménagement semble tenir la corde, Véronique Rubin.
Oui, la lecture du rapport, le projet de Notre-Dame-des-Landes pourrait avoir sérieusement du plomb dans l'aile. Non, le bruit des avions ne va pas augmenter parce que grâce aux progrès techniques, tout ça va s'arranger, ni entraîner une limitation de l'urbanisation
urbanisation de la métropole de Nantes. Non, le trafic aérien ne menace pas la zone Natura 2000 du lac de Grandlieu. Et oui, contrairement aux estimations de la Direction Générale de l'Aviation Civile, réaménager l'aéroport actuel de Nantes Atlantique coûtera deux fois moins cher qu'en construire un nouveau. Pas de chiffrage en revanche de ce que pourrait coûter en plus le dédommagement versé à Vinci en cas d'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, entre 0 et 350 millions d'euros, estiment les médiateurs. À la question, tout de même, quid de la consultation en faveur de Notre-Dame-des-Landes, du déni de démocratie en cas d'abandon du projet d'aéroport? Eh bien, la médiatrice et préfète Anne Bocquet répond.
Le déficit de démocratie dans ce dossier, il a commencé finalement bien avant cette consultation. Nous, on a noté qu'il y avait eu un certain nombre de défaillances, finalement, qui n'avaient pas amené un débat suffisamment transparent, formulé par l'opposition. Je rappelle que l'opposition, elle s'est constituée dès l'origine du projet. Et faute peut-être d'avoir pris suffisamment au sérieux cette opposition, d'avoir établi un dialogue suffisamment fort, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Cette opposition, elle s'est radicalisée, et que l'opposition, pour se faire entendre, et ça, c'est pas démocratique, a été amenée finalement à passer à un autre mode d'action, beaucoup plus violent.
Voilà, les zadistes, les médiateurs préconisent que ceux qui ont un projet agricole ou autre puissent se mettre en conformité avec le droit, les autres n'auront plus qu'à partir.
Véronique Reberotte. La Cour de justice de la République est saisie pour avis après les révélations du canard enchaîné sur Jean-Jacques Urvoas. Selon le journal satirique, l'ancien ministre de la Justice, alors qu'il était encore en poste, a envoyé à Thierry Soler une note sur une enquête pour fraude fiscale visant le député. Pour le parquet de Nanterre, Jean-Jacques Urvoas est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée. Sophie Delpont, vous êtes à l'Assemblée où l'affaire embarrasse beaucoup de monde.
L'affaire est dans toutes les conversations dans les couloirs du Palais Bourbon. Pour l'ancien ministre socialiste Stéphane Le Foll, aujourd'hui député Nouvelle Gauche, Jean-Jacques Urvoas doit s'expliquer au plus vite.
Je ne suis pas déçu, j'ai du mal à le croire. Et en même temps, ce qu'on me dit semble être la vérité. Donc maintenant, il a une responsabilité, c'est de s'expliquer.
Olivier Faure, le chef du groupe socialiste Nouvelle Gauche, est un peu plus mesuré.
J'attends effectivement des éclaircissements parce que c'est un grand garde des Sceaux dont la respectabilité est totale. Et je crois qu'il avait, et qu'il a encore à ce jour, le respect de toutes celles et ceux qui l'ont côtoyé.
C'est pas de bol, avait déclaré François Hollande à propos de la courbe du chômage, refusant de baisser quand il le souhaitait et entamant la descente après coup. La révélation d'aujourd'hui de cette affaire par le canard enchaîné le matin même du bureau de l'Assemblée examinant les bonnes pratiques de transparence et de démocratie embarrasse François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui a contacté Thierry Soler.
J'ai simplement demander à Thierry Soler de bien confirmer qu'il démissionnait rapidement, comme il s'y était engagé à l'époque pour des raisons politiques, qui était le fait qu'il n'était pas possible qu'il y ait trois questeurs de l'Assemblée nationale qui soient du même groupe parlementaire, La République En Marche. Et donc, il est prévu qu'il démissionne d'ici la fin de l'année et qu'il soit remplacé au début du mois de janvier.
Thierry Soler, toujours député, a évité de rencontrer les journalistes aujourd'hui, jour pourtant de questions au gouvernement, où l'hémicycle affiche presque complet.
Sophie Delpont à l'Assemblée nationale. C'est l'une des réformes phares du gouvernement. Les discussions sur l'assurance chômage ont commencé ce matin au ministère du Travail avec les 8 organisations syndicales et patronales. La réforme doit permettre d'ouvrir l'assurance chômage aux indépendants et à certains salariés démissionnaires. Mais en contrepartie, le contrôle des chômeurs doit être renforcé. Le gouvernement français s'inspire notamment du Danemark, un pays qui fait rêver avec ses 4% de chômage. Mais vous avez pu voir l'envers du décor.
Il y a une face cachée du plein emploi au Danemark. Dans une banlieue modeste de Copenhague, des chômeurs se retrouvent en groupe pour une séance de remise en confiance. Ils se serrent les coudes car le système est très contraignant. Il faut envoyer 2 lettres de candidature par semaine, être toujours disponible. Pierre est un ancien cadre, ingénieur. Il a travaillé toute sa vie, il est dans une impasse.
Il y a de jeunes managers qui ne veulent pas embaucher des cadres plus vieux. Et malgré tout, vous devez être actif. sortir tous les jours pour montrer que vous cherchez un emploi. Et je n'ai pas le droit de partir en congé parce qu'il faut être disponible pour le marché du travail. Donc ce ne sont pas juste des vacances.
Et en effet, les chômeurs ne peuvent pas quitter leur ville pour des vacances sans autorisation. Ils risquent de perdre leurs allocations. Quelques-uns ont été arrêtés, pour l'exemple, à l'aéroport de Copenhague. Les demandeurs d'emploi comme Pascal, une Française qui vit au Danemark, sont surveillés de très près.
Le problème, c'est qu'on est vraiment sous pression. On sent comme des gamins. Comme je suis obligée d'envoyer 2 lettres de candidature ou 3 lettres, j'envoie en me disant « j'espère qu'ils ne vont pas me répondre, ce serait mieux s'ils me disaient non ».
Ce système fragilise les plus faibles, mais Lise Bayer le défend. Cette femme est la responsable d'un job center, une agence pour l'emploi de Copenhague.
Quand les chômeurs ont passé 16 mois sans emploi, ils sont plus enclins à accepter n'importe quel travail qu'au début de leur période de chômage. Vous ne pouvez pas chercher un travail comme un astronaute, de loin. Vous devez coller à la réalité du marché du travail. Nous avons un système pour vérifier les recherches des chômeurs. Si c'est vert, ça veut dire qu'ils cherchent dans une zone où il y a des offres d'emploi. Et si c'est rouge, c'est qu'il n'y a rien. Nous nous assurons que les gens cherchent bien dans les zones vertes. C'est très efficace.
Les chômeurs peuvent bénéficier de formation, mais uniquement sur demande de l'entreprise et pour des métiers en tension. Au Danemark, les demandeurs d'emploi perçoivent en moyenne 54% de leur ancien salaire, mais ils sont tenus d'accepter des offres de travail, même si elles ne leur correspondent pas. Ce modèle, qui s'applique aujourd'hui à un pays assez fermé, de moins de 6 millions d'habitants, ne serait pas si facile à transposer.
Célia Kiré, de retour du Danemark. C'est un investissement inédit pour un constructeur automobile. Renault annonce l'acquisition de 40% du groupe de presse Challenge. Renault veut tester la création de contenus adaptés aux utilisateurs de voitures connectées. Et le groupe veut prendre les devants face à de nouveaux concurrents comme Google qui investit massivement dans l'automobile. Alors que le président américain Donald Trump veut renvoyer des hommes sur la Lune pour y établir une base, le Centre national d'études spatiales travaille déjà sur ces voyages de longue durée. Dans sa clinique spatiale de Toulouse, 16 équipes scientifiques venues du Canada, d'Allemagne, du Royaume-Uni et de France observent les effets de l'impesanteur sur le corps humain. 20 volontaires viennent de passer 60 jours allongés, la tête plus bas que les pieds. Le reportage de Corinne Cutillat.
Chute de la pression artérielle, hypertension orthostatique, atrophie des muscles, perte de densité osseuse, les désagréments de l'apesanteur sont multiples. Cette nouvelle étude, baptisée Cocktail, a donc pour objectif de prévenir tous ces effets négatifs. Ce cocktail est un complément alimentaire et on en espère beaucoup, explique le directeur de recherche clinique au MEDES, Arnaud Beck.
L'étude s'appelle le Cocktail parce qu'en fait on teste aussi ce qu'on appelle des contre-mesures, c'est-à-dire des choses qu'on pourrait proposer aux astronautes pour lutter contre les effets un peu délétères de l'apesanteur et de la vie en apesanteur. L'idée étant de pouvoir proposer à terme peut-être aux astronautes de prendre un complément alimentaire qui pourrait limiter tous ces effets. Donc là en fait il y a 20 sujets qui participent à cette étude. Il y en a 10 qui pendant les 60 jours ont pris tous les jours, 3 fois par jour, ce complément alimentaire nutritionnel. Et les 10 autres n'ont rien pris. Et en fait, on va pouvoir comparer les résultats obtenus dans un groupe par rapport à ceux de l'autre groupe. Et évidemment, on espère voir des résultats meilleurs dans le groupe qui aura pris ce fameux cocktail.
Parmi eux, Yann, 27 ans, qui avoue avoir fait figure d'extraterrestre auprès de sa famille quand il a souhaité participer à cette expérience.
La première fois que j'en ai parlé, notamment à ma mère, elle, oui, avait tout de suite avait associé ça à de la folie. Mais après, non, en expliquant, et puis tout le monde était admiratif et assez impressionné de se lancer dans ce genre d'aventure. Les premières semaines, les deux premières semaines, on va dire, étaient difficiles physiquement. Avec des mal de dos, mal de tête, ça pouvait venir, serrement au niveau de la tête. Après, le corps s'adapte de manière impressionnante, puisqu'on était parfaitement adapté à la position allongée, la tête en bas.
L'expérience touche maintenant à sa fin. Les volontaires sont désormais debout, mais c'est une véritable épreuve après 60 jours couchés, explique Sébastien.
La première fois que je me suis remis debout, ça a été assez difficile, parce qu'en fait, on nous demande de marcher jusqu'au fauteuil roulant. Je ne m'en suis pas senti capable, et là, je me suis dit... ça va être compliqué. Et puis après, même pas une heure après, à la fin de quelques tests, bien sûr j'étais faible, mais j'ai quand même pu marcher. Je voyais assez flou, ouais, c'est vrai que la tête qui tournait. Et les mollets, en fait. Les mollets sont vraiment très très faibles. Et même là, je suis à à jour plus 9 depuis le lever. Et mes mollets sont quand même encore très flasques.
Et là, ils vous ont rasé ou...
Ouais, ils nous ont rasé, c'est pour poser des électrodes. Et ça, c'est les biopsies. Prise de muscles, c'est comme une petite intervention chirurgicale.
Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience?
Sans regret, sans remords, hein, vraiment très bonne expérience. Après, forcément, il y a le côté science, qu'on peut aider la science, etc. Ça, c'est un point. Mais il y a aussi le point personnel, en fait, où on peut se dire, voilà, j'ai passé 3 mois ici, 2 mois allongés, enfin... psychologiquement, j'en sors beaucoup plus fort. C'est vraiment une bonne expérience.
Alors pour retrouver des muscles, les garçons ont accès à des appareils de fitness comme ce tapis de marche choisi par Thomas.
Le plus pénible, c'est l'accumulation. Chaque chose qu'on fait en soi n'est pas très compliquée, mais ça dure 3 mois en tout. Donc c'est long et donc faut prendre sur soi beaucoup de fois. Et après, les examens indépendamment, non, ça va.
Alors le plus sympa, c'était quoi?
Le plus sympa, il y avait une bonne ambiance entre les 10 volontaires, là, il y a une très bonne ambiance. Puis après, côtoyer tous les chercheurs, ça c'était super sympa. Je suis content de moi d'être arrivé au bout.
Avis aux amateurs, la prochaine étude de simulation de l'apesanteur sera une immersion sèche. Les volontaires seront dans de grandes baignoires protégées par une bâche entre deux eaux durant 5 jours.
Corinne Cutillao-Médès, la clinique spatiale de Toulouse. La nuit sera agitée. Météo France a placé en vigilance orange pour vent violent 13 départements du nord et du nord-est jusqu'à 8 heures demain matin. Et même ensuite, le temps restera perturbé. Sur une grande moitié nord, pluie, averse et vent. Plus au sud, des nuages et de faibles pluies. Les températures maximales, 6 à 10 degrés en général, 11 à 17 du sud-ouest à la Corse. Ce journal a été préparé avec Emily Chili.